de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir à tous, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en française diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, les infos de l'Indonésie, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Comme d'habitude, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia. Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre « Déplacer la capitale nationale pour augmenter l'efficacité des fonctions administratives » a déclaré le chercheur à l'Université de Nouvelle-Galles du Sud. 1500 objets historiques indonésiens doivent être étudiés en profondeur. Le vice-gouverneur de Bali espère que les relations touristiques entre Bali et le Vietnam seront plus étroites. L'ambassade de France en Iran demande à ses citoyens d'être vigilants sur Soleimani. La France cherche à stabiliser le Moyen-Orient après que Soleimani a été tué par les États-Unis. Khamenei promet de venger la mort de Qassem Soleimani. La marine australienne évacue les victimes d'un incendie. Chers auditeurs, voici le journal complet. Le gouvernement indonésien a plusieurs raisons de déplacer la capitale nationale vers le Kalimantan oriental, entre autres afin d'améliorer l'efficacité des fonctions administratives en Indonésie. Cela a été déclaré jeudi par le Dr Riza Yosia Sunindijo, professeur agrégé et directeur de la recherche de troisième cycle à la Faculté de l'environnement artificiel de l'Université de New South Wales en Australie dans une interview accordée à la radio communautaire de Sydney Educational Radio. Selon lui, 40% de la zone de la ville de Jakarta est en dessous du niveau de la mer, dont des inondations se produisent souvent.
Actuellement, environ 40% de Jakarta est en fait en dessous du niveau de la mer, donc des inondations se produisent souvent. Et mercredi, il y a eu une grosse inondation à Jakarta. Par conséquent, le déplacement de la capitale vers une nouvelle ville a le potentiel d'augmenter l'efficacité de la fonction d'administration publique. Dr. Riza Yosia Sunindijo a dit que jusqu'à présent, le peuple indonésien estime que le développement mené par le gouvernement jusqu'à présent a été plus centré sur l'île de Java, dont le déplacement de la capitale indonésienne à Kalimantan oriental devrait changer cette perception. En outre, le déplacement de la capitale devrait accélérer le développement dans d'autres régions d'Indonésie. 1500 objets historiques indonésiens qui se trouvaient auparavant au musée de Nusantara aux Pays-Bas sont restitués en Indonésie par le biais d'un processus de répatriement. La collection provient de l'Indonésie puis apportée aux Pays-Bas, précisément dans la ville de Delft. Parmi les objets de collection, il y a des hachets originaires de Bornéo et devraient provenir de 5000 avant Jesse. Le directeur général du ministère de la Culture, de l'Éducation et de la Culture, Hilmar Farid, lors d'une conférence de presse à Jakarta, récemment a déclaré que l'existence d'objets historiques a également joué un rôle dans la détermination de l'histoire de l'Indonésie dans le passé. Il est donc nécessaire d'étudier en profondeur des objets historiques qui sont restitués par les Pays-Bas en Indonésie. Le vice-gouverneur de Bali, Chokorda Oka Arta Ardana Sukawati, espère que les relations touristiques entre Bali et le Vietnam seront resserrées afin de profiter aux deux parties. Le vice-gouverneur de Bali, Chokorda Oka Arta Ardana Sukawati, a reçu jeudi à Denpasar une audience de l'ambassadeur du Vietnam en Indonésie,
Pham Vinh Quang, à Denpasar, a déclaré que l'Indonésie et le Vietnam avaient une similarité. Selon Sukawati, avec l'existence de nombreuses similitudes, à l'avenir, l'Indonésie et le Vietnam pourront établir plus de coopération dans divers domaines afin d'améliorer le bien-être de la communauté. L'ambassade de France à Téhéran a appelé vendredi les citoyens français en Iran à éviter les activités en public après que le commandant militaire iranien Qassem Soleimani a été tué lors d'une frappe aérienne américaine. L'ambassade de France à Téhéran a déclaré dans une déclaration sur Twitter que 3 jours de deuil ont été fixés après la mort du général Soleimani. Concernant cette question, nous exhortons les citoyens français à éviter toute activité et à faire attention, à agir avec sagesse et à ne pas prendre de photos dans les lieux publics. Les États-Unis ont tué Soleimani lors d'une frappe aérienne à l'aéroport de Bagdad. Soleimani est le chef de la force Quds, qui est également le concepteur de l'expansion de l'influence militaire de l'Iran au Moyen-Orient. La priorité de la France est de stabiliser le Moyen-Orient, a déclaré vendredi la vice-ministre des Affaires étrangères Amélie de Montchalin. Elle a déclaré la position française après que les États-Unis, par une frappe aérienne, aient tué le commandant des forces côtes iraniennes, Qassem Soleimani. Amélie à la radio RTL a déclaré que ce qui se passe maintenant, c'est ce que nous craignions. Les tensions entre les États-Unis et l'Iran s'intensifient. Selon la ministre, les hauts responsables français établiraient des contacts de haut niveau avec les principaux acteurs de la région. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, appelle son peuple à 3 jours de deuil national vendredi. Il a également déclaré que l'assassinat du général de division Qassem Soleimani doublerait la motivation de la résistance contre les États-Unis et Israël. Cité par India Today vendredi dernier, Khamenei a dit que Soleimani a été tué lors d'une frappe aérienne américaine à Bagdad. La Maison-Blanche a déclaré que le président américain Donald Trump a ordonné une frappe aérienne qui a tué Soleimani. La marine australienne a évacué des personnes prises au piège dans la ville de Malakota, qui a été dévastée par les incendies de forêt qui a touché la plage de Victoria. Le député Darren Chester, rapporté par la BBC vendredi 3 janvier, a déclaré que deux navires, HMS Cool et MV Sycamore, évacueraient environ 1000 personnes. Selon Chester, cela est une délocalisation de masse qui ne s'est jamais produit auparavant. Environ 4000 habitants et touristes se sont enfuis sur la plage lundi soir lorsque des incendies de forêt ont frappé la ville. Voilà le journal d'aujourd'hui. Bonsoir à tous, voici les infos de l'Indonésie. Les premières nouvelles sont venues de Kota Waringin West, Kalimantan du Sud. La zone touristique côtière intégrait la plage de Kubu, la golfe de Bogam, et la plage de Keraya ou Bugam Raya, le district de Kumai, la région de Kota Waringin West, Kalimantan Central. Pendant les vacances de Nouvel An 2020, on était visité par au moins 12 100 touristes, y compris ceux de Yogyakarta. Cela a été dit par Anang Pitarto, le responsable du développement des destinations touristiques de Kota Waringin West, jeudi à Pangkalan Bun. La nouvelle suivante est venue de Bantul, Yogyakarta. L'Office du tourisme de Bantul, Yogyakarta, a déclaré qu'environ 300 000 touristes de différentes régions ont visité des destinations touristiques de la région pendant les longues vacances coïncidant avec les vacances scolaires, Noël et la fin de 2019. Le chef de l'Office de tourisme de Bantul, Quintarto Heru Prabowo, a déclaré jeudi à Bantul que l'attraction touristique qui était une destination préférée des touristes était la plage de Parangtritis. Elle a été visitée par environ 2,7 millions de touristes avec un revenu de 26,3 milliards de roupies. Les dernières nouvelles sont venues de Solo, Java Central. Pendant les vacances du Nouvel An 2020, le parc de Satwa Taru Juruk, ou mieux connu sous le nom de Juruk Solo Zoo, a été inondé de touristes. Jeudi dernier, Le directeur du parc de Satwater Juruk, Bimo Wahyu Widodo, a déclaré que sur la cible de 20 000 personnes, les visiteurs venus le 1er janvier 2020 ont atteint plus de 24 000 personnes. Le chiffre a augmenté par rapport aux vacances du Nouvel An 2019, qui a atteint environ 22 000 personnes. Selon lui, l'augmentation est soutenue par l'amélioration du Juruk Solozu, entre autres l'infrastructure. En outre, effort étant fait par le gestionnaire est de continuer à augmenter le nombre de collections d'animaux dans le zoo. Le nombre d'animaux à Juruk Solozu est 441 animaux, avec 86 espèces.
Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission avec l'histoire d'aujourd'hui, le 4 janvier. Le 4 janvier 1946, la capitale de la République unitaire d'Indonésie a été transférée à Yogyakarta. Après la proclamation de l'indépendance indonésienne, les Pays-Bas n'ont pas nécessairement reconnu la souveraineté indonésienne. Les Hollandais sont retournés en Indonésie avec les Alliés. La sécurité de Jakarta en tant que capitale de la République unitaire d'Indonésie est menacée. Sri Sultan Hamengkubuwono IX a suggéré que la capitale de la République unitaire d'Indonésie soit transférée à Yogyakarta. L'offre du sultan a été acceptée par le président Sukarno et le 4 janvier 1946, la capitale de l'État unitaire de la République d'Indonésie a officiellement déménagé à Yogyakarta. Après que les Hollandais ont reconnu l'indépendance de la République d'Indonésie, le 27 décembre 1949, Jakarta est redevenue la capitale de l'Indonésie. Le 4 janvier 1948, le Myanmar est indépendant de la Grande-Bretagne. Au milieu du 19e siècle, la Grande-Bretagne a officiellement conquis le Myanmar. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Myanmar était occupé par le Japon. Cette époque d'occupation japonaise a été utilisée par le peuple du Myanmar pour organiser son mouvement d'indépendance en créant la Ligue antifasciste pour la liberté sous la direction d'Aung San. Après la défaite du Japon, la Grande-Bretagne est retournée au Myanmar, mais parce qu'elle a vu la Ligue antifasciste pour la liberté a une grande influence parmi le peuple, les Britanniques ont finalement accepté de céder leur indépendance au Myanmar. Le 4 janvier 2004, Spirit, le véhicule d'exploration de la NASA, a atterri avec succès sur Mars. Depuis que la mission spatiale a été déployée par les États-Unis et l'Union soviétique au début des années 50, un certain nombre de manèges ont été envoyés dans l'espace à plusieurs reprises pour enquêter sur Mars, en particulier pour trouver un nouveau monde similaire à la Terre. Après l'échec de nombreuses missions sur Mars, finalement, le 4 janvier 2004, le véhicule d'exploration de la NASA, le Spirit ou Mars Exploration Rover, AMERA, a atterri sans problème à la surface de Mars. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
menyiksa. Ingin ku jumpa, tapi batas memaksa. Senyum pesona, oh, terbayang di benak. Tenangkan jiwa, hilangkan semua rasa. Ganti haru bahagia. Oh, oh, oh. Kau ada di hatiku, di mimpiku dan di hariku. Kau ada selalu menyatu dengan darahku. Senyum pesona.
Voilà la chanson de Gaby Idol dont le titre est Pesona. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie à tout le monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Pour vous, chers auditeurs, voici la rubrique Mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Chers amis, voici Mon Indonésie, intitulé L'autorité des services financiers. OJK encourage les micro, petites et moyennes entreprises MPME et les détaillants à entrer sur le marché des capitaux 2020. L'autorité des services financiers OJK encourage les micro, petites et moyennes entreprises MPME et les investisseurs de détail à pénétrer le marché des capitaux afin de maintenir l'intégrité du marché. Ils sont également encouragés à utiliser une plateforme numérique car le processus de commande et les transactions sont désormais numériques, comme l'a déclaré le président du Conseil des commissaires d'OJK, Wimbo Santoso, lors de l'ouverture des négociations boursières au bâtiment de la Bourse d'Indonésie, jeudi 2 janvier à Jakarta. Selon Wimbo Santoso, OJK élargira sa base d'investisseurs dans des régions de toute l'Indonésie en utilisant la technologie numérique. Selon lui, l'encouragement des MPME et des investisseurs de détail à entrer sur le marché des capitaux est l'une des trois politiques que OJK adoptera. Deux autres politiques qui seront poursuivies, à savoir l'amélioration de la gouvernance de l'industrie des marchés financiers, comprennent l'élévation des normes sur le marché commercial, la transparence des états financiers par le biais d'auditeurs crédibles. Une autre politique consiste à accroître le rôle du marché des capitaux à partir de divers projets de financement, en particulier le financement qui est la priorité du gouvernement. OJK réfléchit actuellement aux incitations qui peuvent être accordées. Wimbo a remercié la ministre des Finances, Sri Mulyani Indrawati, qui a contribué à encourager l'investissement grâce aux incitations fiscales. OJK a enregistré une hausse des taxes sur les investissements dans les fonds communs de placement, les investissements immobiliers sous forme de contrats d'investissement collectif, les fonds d'investissement dans les infrastructures sous forme de contrats d'investissement collectif et les contrats d'investissement collectif en valeur mobilière adossée à des actifs. Il a mentionné que l'augmentation de 4 investissements est 5% en 2020 et 10% en 2021. Wimbo a révélé que les trois politiques seront renforcées cette année étant donné la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine et le Brexit qui n'est toujours pas clair pourrait se produire en 2020. La négociation d'action en 2020 a été ouverte par le président Joko Widodo. Le directeur général de la Bourse d'Indonésie, Inarno Jayadi, le ministre des Finances, Sri Mulyani Indrawati, et le ministre du Commerce, Agus Suparmanto, étaient présents à l'ouverture. Chers amis, c'était mon Indonésie.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Pagi ku terjebak di dalam ambisi, seperti orang-orang berdasi yang gila materi. Rasa bosan membukakan jalan mencari terang, keluarlah dari zona nyaman. Sembilu yang dulu biarlah berlalu, bekerja bersama hati. Kita ini insan bukan seekor sapi. Sembilu yang dulu biarlah membiru, berkarya bersama hati. Ekoku merangkul orang-orang yang mulai sejiwa denganku. Kebeeman jalan mencari teman, bergeraklah dari zona nyaman. Sembilu yang dulu biarlah berlalu, bekerja bersama hati kita ini insan, bukan seekor sapi. Sembilu yang dulu biarlah membiru, berkarya bersama hati.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de 420, dont le titre est Zona Nyaman, qui signifie la zone de confort. En plus de la fréquence de 3325 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.it. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Bonsoir à tous, voici le magazine culturel introduisant Gembus, le culinaire de Gombong, Kebumen, Java Sangha. Kebumen est au carrefour sud de l'île Java. Le transport public interurbain à Kebumen est servi par les bus et les trains. Les stations Kebumen, Gombong et Karanganyar sont de grandes stations à Kebumen. En outre, il existe d'autres petites stations telles que Prembun, Soka, Kutowinangun. En plus d'avoir des attractions touristiques attrayantes, Kebumen propose également des aliments spéciaux, dont Gembus. Gembus comprenant une nourriture typique et unique et ne se trouve que dans la région Gombong en régence Kebumen. Gembus est une collation à base de manioc. D'abord, du manioc est pelé, puis lavé et déchiqueté. Après cela, le manioc râpé est donné l'assaisonnement et cuit à la vapeur pour être utilisé comme pâte. Avec un peu de farine ajoutée, la pâte est ensuite façonnée en un long et circulaire comme un anneau. Il y a aussi ceux qui disent qu'il ressemble à la lettre O. Gembus est alors prêt à être frit et manger. Habituellement, Gembus est préparé par le vendeur sous forme d'être prêt à frire. Les vendeurs de gambus vendent généralement en utilisant de l'encringan. Dans une partie, la place pour gambus est prête à être frite, tandis que de l'autre côté est pour un lot ou la cuisinière et la poêle. Une autre particularité du vendeur de gambus est qu'il apporte toujours de lampe scintille. La lampe étant fabriquée à partir de bidons de kérosène alimentés et utilise une petite mèche pour l'éclairage. Pour faire frire gambus, on utilise habituellement un lot, une sorte de poêle en argile avec du charbon de bois. Mais maintenant, de nombreux vendeurs de gambus ont utilisé des réchauds à pétrole ou à gaz. En plus d'être une collation, gambus peut également être utilisé comme plat d'accompagnement. Le village Ori, qui est situé dans le sous-district Kuarsan en région Skebumen, est un village qui est également célèbre pour gambus de manioc. La plupart des habitants du village Ori ont l'expertise nécessaire pour fabriquer gambus et le commercialiser. Parce que maintenant, l'intérêt des acheteurs de gambus pour les souvenirs augmente, les vendeurs de gambus servent également à la vente de gambus brut. Habituellement, les ventes de gambus augmentent 3 jours après l'aide. Le prix du gambus mûr en boîte contenant 6 à 8 pièces et 2000 rupiah. Les vendeurs de gambus ouvrent généralement vers 16 heures jusqu'au soir. De plus, les vendeurs de gambus sont très faciles à trouver dans les endroits où les gens célèbrent. Cher ami, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci d'être fidèle à la Voix de l'Indonésie. Au revoir.
C'était la chanson de Deriska Afrilia, intitulée « Apa itu cinta ?» ou en français « Qu'est-ce que c'est l'amour ?» Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous, voici l'Indonésie en couleur informant sur deux films indonésiens, Kuchumbu Tubuh Indahku et Ambu, qui représentent l'Indonésie dans le festival du film Asie-Pacifique. Le film Kuchumbu Tubuh Indahku représentera l'Indonésie au 59e Festival du film Asie-Pacifique, APFF, qui se tiendra à Macao du 7 au 9 janvier 2020. Le film de Garin Nugroho a été choisi par l'Association des sociétés cinématographiques indonésiennes, PPFI, représentant l'Indonésie ensemble avec le film Ambu. La sélection des deux films a été effectuée avec une attention particulière. Le secrétaire général du PPFI, Zairin Zen, a déclaré que les deux films avaient une approche différente des arts créatifs. Par conséquent, tous les deux ont été choisis pour représenter l'Indonésie au 59e Festival de films d'Asie-Pacifique. Kuchumbu Tubuh Indahku est considéré non seulement pour montrer une image esthétique, mais aussi pour révéler une sous-culture sur la complexité de la sexualité avec une approche symbolique. Alors que le film Ambu est considéré comme représentant la question de l'acculturation de la tribu bédouine, l'un des groupes les plus stricts, interagissant avec les cultures extérieures. En plus d'être épaisse avec l'introduction de la culture indonésienne, Ambu est également considéré comme ayant une histoire intéressante, remplie d'une cinématographie charmante. La participation de l'Indonésie au Festival de films Asie-Pacifique est indissociable de l'histoire de l'Association des sociétés cinématographiques indonésiennes, PPFI, en tant que l'un des fondateurs et membres de la Fédération des producteurs de films en Asie-Pacifique, FPA, qui a été fondée en 1953. En 1954, la FPA a commencé à organiser le Festival de films Asie-Pacifique à Tokyo et se tient chaque année en rotation dans 22 pays membres. L'Indonésie a remporté plusieurs titres honorables dans ce festival. En 2019, l'acteur Reza Rahadian a été choisi comme le meilleur acteur. Auparavant, en 1998, le film de Garin Nugroho, Daun di atas Bantal, a également remporté le titre de meilleur film. Maintenant, les films Kuchumbu Tubuh Indahku et Ambu se battront pour représenter l'Indonésie au Festival du film Asie-Pacifique. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur.
Sore, tak usah Kalaukah kau tanya, aku ceritakan nanti. Hei cantik, kemana saja? Tak ada berita, sedikit cerita. Tak ku baca lagi pesan di ujung malam. Dan Jakarta muram kehilanganmu. Terang lampu kota tak lagi sama. Sudah saatnya kau tengok puing yang tertinggal. Sampai kapan akan selalu berlari? Hingga kini masih selalu ku nanti. Saja menyusuri kota, ceritakan semua ceritamu padaku. Ya Jakarta, diam kehilanganmu. Bau wangi hujan tak lagi sama. Musik yang tertinggal. Sampai kapan aku kan bernyanyi sendiri? Hingga kini masih selalu menanti. Nanti terbawa lagi langkahku ke sana. Mantra apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini katanya. Izinkan aku pulang ke kotamu. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Ingat waktu itu ku bertanya. Aku mau dengar jawabnya. Terbawa lagi langkahku ke sana. Mantra apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini katanya. Izinkan aku pulang ke kotamu. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja.
C'était la dernière chanson intitulée « Sesuatu di Jogja » qui signifie « Quelque chose à Jogja » chantée par Aditya Sofia. Nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute!
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde, toujours avec moi Tiwi dans le magazine musical. Cette fois-ci, je vous présente une chanson de Kroncong intitulé Ingkar Janji, qui signifie rompre les promesses. Cette chanson raconte de quelqu'un qui a été blessé par son amant. Auparavant, ils avaient promis d'être fidèles, mais maintenant, l'amant le quitte et va avec l'autre. Malgré cela,
Il priait toujours pour que l'amant soit heureux avec sa nouvelle amante. Et chers auditeurs, voici Sundari Sukhojo, dont le titre est Ingkar Janji, qui signifie « rompre les promesses ». Bonne écoute.
Meninggalkan aku.
Voice of Indonesia.
l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie à tout le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web de www.voynews.id. Au revoir.